en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
L'historien ne se trompe jamais, ou du moins rarement. L'homme politique se trompe souvent, ou en tout cas parfois. C'est la différence entre l'histoire, une science exacte, et la politique, un art incertain comme celui de la guerre, malgré les lois qu'on a prétendu en dégager. Ces quelques phrases devraient suffire. Elles résument le sujet qu'il m'a été demandé de traiter devant vous, histoire et politique, mais est-ce si sûr ? Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, mesdames, messieurs, l'historien ne se trompe jamais. Il peut vous donner sans erreur l'issue de la bataille d'Austerlitz que vient d'évoquer notre président le 2 décembre 1805, alors que Napoléon se trouvait en état d'infériorité numérique au pied du plateau de Pratzen, sur lequel les forces austro-russes avaient établi un redoutable système défensif. Et pourtant, nous apprend l'historien, Napoléon l'a finalement emporté. Comment, pourquoi, tout est parfaitement expliqué par les biographes de Napoléon. Prenons la bataille d'Ankara en 1402, opposant deux formidables chefs de guerre, Tamerlan et ses Mongols, Bajazet et ses Ottomans. Là encore, en dépit de l'éloignement dans le temps, l'historien désigne le vainqueur Tamerlan et il en donne les raisons. L'historien ne se trompe pas, car il est le prophète du passé. Il décrit les événements d'hier. Et comme il le fait en confrontant scrupuleusement ses sources, des sources qu'il juge sûres qu'il a passées au crible, sa marge d'erreur est faible. Et si les sources font défaut, il pose un point d'interrogation dans l'attente de nouvelles découvertes. C'est Voltaire qui, l'un des premiers dans ses nouvelles considérations sur l'histoire, insiste sur la fiabilité des sources. Raconter l'histoire ancienne, c'est compiler, ce me semble, quelques vérités avec 1000 mensonges. Les sources nous manquent. Il faut savoir les exploits d'Alexandre, comme on sait les travaux d'Hercule. La mythologie ne se confond pas avec l'histoire. Rigueur donc dans la narration du passé, telle est l'exigence de l'historien. Le politique, lui, fait l'histoire, se trouve confronté au présent et doit prévoir l'avenir. Quelle voie choisir ? S'il se trompe, outre les conséquences d'une mauvaise décision, l'erreur sera relevée par l'historien et transmise par ses soins à la postérité. Le politique peut-il l'accepter ? Il a le pouvoir. Quand l'historien est seul face à sa feuille blanche, animée simplement par sa recherche de la vérité. Comment, mes chers confrères, le politique ne chercherait-il pas à lui imposer sa propre vérité ? Prêteur sous Domitien, consul sous Nerva, gouverneur de la province d'Asie, Tacite n'a-t-il pas été soumis à des pressions lorsqu'il écrivit l'histoire de la dynastie précédente, celle des Julio-Claudiens, qu'il importait de noircir ? Je me tourne vers notre secrétaire perpétuel qui nous en donnera sûrement la réponse. Pour Suétone, le doute n'est guère permis. S'il ne modifie pas le cours des événements, il en donne des intentions et des actes sous une image tout à fait négative. Aussi, les historiens vont-ils se trouver en face de souverains qui vont prévenir leurs futurs écrits ? Ces souverains ont eu l'habileté d'avoir des historiographes. Ainsi, Racine pour Louis XIV. Sans doute, note un contemporain, Racine avait-il toutes les qualités nécessaires pour écrire parfaitement l'histoire, mais il était impossible de s'acquitter d'une fonction si délicate avec toute l'exactitude et la fidélité qu'elle exige à la cour d'un roi dont l'éclat éblouissait tous les yeux. Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire, fin de soupirer ce parfait courtisan qu'était Racine. Et Louis IX serait-il devenu Saint-Louis sans Joinville? De toute façon, l'histoire ne se raconte pas de la même façon selon les régimes politiques. L'image de Napoléon n'a pas cessé de varier. En 1814, à la chute de l'Empire, il est l'Antéchrist, Attila, Jean Giscan pour les historiens de la Restauration. On minimise ses victoires. On grossit ses fautes. L'image qu'en donne le mémorial de Sainte-Hélène, œuvre de propagande bonapartiste, due à Lascaz, un chroniqueur de talent, cette image d'un martyr, sorte de Prométhée cloué sur son rocher hélénien, bouleverse l'opinion et permet le retour des cendres de l'empereur qui va reposer aux Invalides sous la monarchie de Juillet, régime à la recherche d'une caution historique. L'histoire de Napoléon se fait épique sous l'influence du romantisme, puis officielle avec l'avènement du Second Empire. Mais, en 1870, après Sedan, on lit désormais dans les écoles les châtiments, et plus particulièrement l'expiation de Victor Hugo, ou encore le conscrit de 1813 d'Erckmann Chatrian. Les manuels d'histoire de Lavis s'en ressentent. Il écrit, lui qui se veut pourtant l'homme du positivisme, « Une nation commet une irréparable faute quand elle s'abandonne à un homme, alors même que cet homme a reçu le don du génie. » Mais à la recherche d'un modèle pour assurer la revanche sur la Prusse et la reconquête de l'Alsace-Lorraine, les Français redécouvrent, sur la suggestion de Barrès dans les Déracinés, le vainqueur d'Iéna. Et voilà que les batailles redeviennent un thème privilégié des historiens. Foch et Joffre, au sortir de la guerre de 14-18, feront référence au génie militaire de Napoléon. Le bicentenaire de sa naissance en 1969 se passe dans un relatif consensus. C'est que le Parti communiste cite Marx qui voit en Napoléon le destructeur de la féodalité. Il n'en va plus de même aujourd'hui. Refus officiel en 2005 de célébrer Austerlitz, disparition de Napoléon des programmes d'histoire. La raison, Bonaparte a rétabli l'esclavage en 1802, dans le contexte actuel, c'est une décision qui ne pardonne pas. On le voit, l'historien ne peut que difficilement échapper à l'environnement politique de son temps, même si par nature et par obligation d'objectivité, il évite le dithyrambe ou la critique. Du moins, a-t-il la possibilité de se soustraire à cette pression, d'affirmer son indépendance. Le fait nouveau de la fin du XXe siècle, c'est la loi. La loi par laquelle le politique impose sa vérité à l'historien, loi à laquelle celui-ci doit se soumettre. Le 3 mai 1990 est adopté par l'Assemblée nationale par 307 voix contre 265, une proposition de loi déposée par M. Jean-Claude Guessot visant à faire de la contestation publique d'un crime contre l'humanité reconnu comme tel lors du procès de Nuremberg un délit sanctionné au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Après passage au Sénat, la loi est promulguée le 13 juillet 1990. Je cite. Constitue désormais un délit le fait d'avoir contesté par des moyens énoncés à l'article 23 l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du dit statut, soit par une personne reconnue coupable de tel crime par une juridiction française ou internationale. On retiendra de cette longue citation le mot « contesté ». Un mot ambigu qui semblerait plutôt viser le polémiste ou le journaliste. Mais l'historien ne pouvait y échapper, car cette loi s'expliquait par l'existence d'un courant historique dit négationniste ou révisionniste qui s'était développé à la fin de 1978 et au début de 1979. Il niait l'existence des chambres à gaz lors de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, et sans doute s'étendait à l'extermination des malades mentaux, des juifs et des peuples considérés comme inférieurs, idées développées à travers des livres ou des articles, comprenant d'ailleurs des notes en bas de page comme dans les travaux érudits, mais soutenues par une idéologie dominante. Ce sont des événements comme l'attentat de la rue Copernic en octobre 1980 et la profanation de sépultures juives provoquant une vive émotion, qui ont attiré l'attention sur des travaux restés jusqu'alors d'une diffusion limitée. Au premier examen, la loi Guesso semblait viser la presse, mais elle pouvait paraître aux yeux de certains observateurs comme limitant la liberté de l'historien. Une première réaction vint de Madeleine Rébériou, longtemps présidente de la Ligue des droits de l'homme, spécialiste de Jaurès et de l'histoire du socialisme, donc peu suspect de faveur à l'égard d'idéologies jugées sulfureuses. Dans la revue L'Histoire, en novembre 1990, puis plus tard dans une tribune libre du journal Le Monde du 21 mai 1996, elle critiquait un texte qui, disait-elle, confiait à la loi ce qui est de l'ordre du normatif et au juge chargé de son application la charge de dire la vérité en histoire, alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. Pierre Vidal-Naquet, principal adversaire du révisionnisme, allait dans le même sens, concluant ses réflexions sur le négationnisme en contestant à son tour la loi Guesso. « Toute autre attitude, disait-il, supposerait que nous imposions la vérité historique comme la vérité légale, ce qui est une attitude dangereuse et susceptible d'autres champs d'application. » Interdire, c'est imposer une histoire officielle. C'est refuser le débat indispensable à la vérité, telle était la conception de ces deux grands historiens que je viens de citer. Ils lançaient un avertissement face à cette volonté du politique de légiférer sur l'histoire. En effet, de nouvelles lois allaient suivre. Loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien, puis celle du 21 mai 2001 reconnaissant la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. En février 2005, c'est la présence française en Afrique du Nord qui devient proposition de loi. Les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. Comment l'historien n'aurait-il pas pu réagir ? Le 13 décembre 2005 paraît un manifeste intitulé « Liberté pour l'histoire ». On y lit. Ému par les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l'appréciation du passé, Nous tenons à rappeler que l'histoire n'est pas un objet juridique ou une religion. L'historien n'accepte aucun dogme, aucun interdit, ne connaît pas de tabou. L'histoire n'est pas la morale, l'historien n'a pas pour rôle d'exalter ou de condamner, il explique. Et c'est que la diversité des champs concernés par la loi montrait que les risques d'extension à l'ensemble de l'histoire étaient grands. Un débat était déjà né sur la transmission de la science grecque par les Arabes à l'Occident. Les croisades étaient en passe d'être contestées et leur histoire en voie de révision. Le manifeste poursuit « La politique de l'État, même animée des meilleures intentions, n'est pas la politique de l'histoire. C'est en violation de ces principes que certains articles de loi successifs du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001, du 25 février 2005 ont restreint la liberté de l'historien, lui ont dit sous peine de sanction ce qu'il doit chercher et ce qu'il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et posé des limites. Nous demandons l'abrogation de ces dispositions législatives indigne d'un régime démocratique. Et ce manifeste était signé d'historiens de l'Institut et du Collège de France. La réplique ne tarda pas, car il ne s'agissait plus de savoir si Charlemagne avait ou non de la barbe, ou si Louis XVII s'était évadé du temple. La protestation des signataires du manifeste fut jugée elle-même politique. Une contre-pétition était lancée le 16 décembre 2005, un appel pour une vigilance sur les usages publics de l'histoire. Elle dénonçait l'amalgame entre plusieurs lois, amalgame qui venait de se faire dans le manifeste. Pour l'œuvre positive de la France en Afrique du Nord, disaient les auteurs de ce contre-manifeste, il serait fait d'une position politique le contenu légal d'un enseignement. En revanche, pour les lois reconnaissant des faits attestés de génocide ou de crimes contre l'humanité, il s'agit de lutter contre le déni et préserver la dignité des victimes offensées par ce déni. Ces lois ne restreignent pas, selon les auteurs de la pétition, la liberté de recherche et d'expression, elles prennent simplement acte de faits établis. Le législateur ne s'est pas immiscé sur le territoire de l'historien, il s'y est adossé pour limiter les dénis afférents à des sujets historiques spécifiques. Et, des auteurs de proclamer, l'historien serait-il le seul citoyen au-dessus des lois ? Mais, répliquèrent d'autres historiens, ces lois éliminent le doute, fixent les faits dans le marbre, or l'histoire ne progresse que par des remises en cause, par des débats qui affinent la vérité. Et, nouvelle pétition cette fois de juristes, dont des membres de notre académie, le 29 novembre 2006, demandant l'abrogation pure et simple de ce que l'on appelle maintenant les lois mémorielles qui existent toujours. Ainsi, le politique, appelant au renfort le droit et la morale, fait de l'histoire un thème de polémique. Le choc est d'autant plus rude que l'historien n'écrit pas pour lui-même tel le poète qui se complaît dans ses états d'âme. Les recherches de l'historien sont publiés et deviennent matière d'enseignement. Et l'histoire n'est pas seulement une science, mais aussi un genre littéraire. Les livres d'histoire sont très lus par un large public. L'historien endosse ainsi une incontestable responsabilité. Or, le voilà privé d'objectivité. L'histoire est écrite par les vainqueurs, dit-on. Et l'on ressort le jugement de Paul Valéry. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. L'histoire fait rêver, enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient les vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. L'histoire justifie ce qu'on veut, elle n'enseigne rigoureusement rien, car contient tout et donne des exemples de tout. Au lieu de se contenter de faire l'événement et de laisser ensuite à l'historien le soin de le raconter, le politique a eu tendance à lui imposer par divers moyens ce qu'il doit écrire. Et, pour être bien sûr de ce que dira l'historien, le politique a utilisé une autre arme, se faire lui-même historien. Certes, il peut écrire ses mémoires, mais considérés comme subjectifs, ils seront suspects et passés au crible. Alors, le politique se transforme lui-même en historien. Pierre, Guizot, Tocqueville ont été ministres ou députés avant d'élaborer une œuvre historique. Ils y apportent, au demeurant, une expérience qui fait défaut dans l'analyse à l'historien proprement dit. Retenons le cas de Thiers, qui commence en 1840 son histoire du consulat et de l'Empire. Il a derrière lui déjà un riche passé politique, ministre de l'Intérieur et deux fois président du Conseil. En 1855, au terme de l'ouvrage, il se livre dans un avertissement. L'histoire, c'est le père instruisant ses enfants. Après une telle définition, la comprenez-vous prétentieuse, exagérée, fardée ou déclamatoire? L'histoire doit être vraie, simple et sobre. Or, quelle est, entre tous les genres d'esprit, celui qui lui conviendra le mieux, pour qui ses qualités seront essentielles? Évidemment, l'esprit intelligent, pragmatique. Et il faut comprendre ici l'esprit politique, qui voit les choses telles qu'elles sont, les voit justes et les veut rendre comme il les a vues. L'intuition fait la force du politique, mais lui aussi ne peut échapper à son action passée, à son idéologie. Thiers s'en défend. J'ai commencé mon histoire en 1840 sous un roi que j'ai servi et aimé, tout en lui résistant sur quelques points. Je l'ai continué sous la République et je l'achève sous l'Empire, rétabli par le neveu du grand homme dont j'ai retracé les actions. Thiers reprend son souffle et continue. Il y a une espérance dont je me berce, c'est que personne n'apercevra dans mes écrits une trace des diverses époques, non seulement dans le fond de mes jugements, mais dans les nuances de mon langage. La subjectivité, le grand danger qui menace plus encore l'homme politique que l'historien. J'espère donc, à nouveau Thiers a repris son souffle, j'espère donc qu'on ne s'apercevra pas que tel jour je fus en possession du pouvoir. Tel autre jour, proscrit, tel autre jour encore, paisiblement heureux dans ma retraite, et que ma raison apparaîtra seule dans mes récits. Mais alors pourquoi ne pas laisser la place à l'historien? C'est que Thiers l'avoue, et il explique que c'est la supériorité de l'homme politique sur l'historien, il a voulu donner son opinion. Celle, dit-il, qui percera seule dans ce livre. On reconnaîtra un historien admirateur ardent de Napoléon, admirateur plus ardent de la France, déplorant que cet homme extraordinaire ait pu tout faire jusqu'à se perdre, mais lui sachant un gré immense de nous avoir laissé, en nous laissant la gloire, la semence des héros. Belle profession de foi, mais la politique va retrouver Thiers. Sa répression de la Commune en 1871 va le discréditer et va paralyser aujourd'hui encore toute réédition de son histoire du consulat et de l'Empire. D'exemple, n'a pas découragé les hommes politiques. Président de la République, président du Conseil, président de l'Assemblée nationale, ministre. Cela va du Napoléon III de Philippe Séguin au Georges Mandel de Nicolas Sarkozy, du Henri IV de François Bayrou au François Ier de Jacques Lang, des 100 jours de Dominique de Villepin au récent mal napoléonien de Lionel Jospin, sans parler de la victoire de la Grande Armée Uchronie de Valéry Giscard d'Estaing. Fascination pour d'illustres prédécesseurs pris pour modèles et revendiqués comme tels. Façon de faire passer un message ou de tirer une leçon en comparant passé et présent. Prendre, à travers un livre, une stature intellectuelle et utiliser sa notoriété pour le vendre, que l'on pense au coup de génie de Thiers, qui, fort de son autorité politique, fait revenir les cendres de Napoléon en 1840, formidable rampe de lancement pour son histoire du consulat et de l'Empire qu'il est en train d'entreprendre. Philippe Séguin échouera dans sa tentative de rapatrier la dépouille de Napoléon III sur l'exemple de Thiers, mais son livre sur ce même Napoléon III n'en aura pas moins un grand succès. Ces hommes politiques invoqueront-ils Voltaire pour écrire des livres d'histoire? Il faut des hommes qui connaissent autre chose que les livres. Notons qu'à aucun moment, le politique n'envisage de supprimer l'histoire. Il en a besoin comme témoin de son action, comme témoin, mais surtout pas comme juge. La fin de l'histoire ne se peut concevoir que comme la fin de la politique. Et comment ne pas tirer des leçons politiques, précisément, de l'histoire? Parler de politique et histoire en un temps aussi court que celui qui m'est imparti tient de la gageure, tant les facettes du sujet sont multiples. En confier, Monsieur le Président, la responsabilité à un historien qui se situe dans la lignée de cette école positiviste des années 1880-1910, qui n'avance que bardée de preuves, de témoignages, de documents passés au crible et que hérisse toute idéologie qui l'éloignerait du rationalisme scientifique, laissant aux philosophes le soin de dégager le sens de l'histoire, tout cela vouait cette communication à des conclusions pessimistes. Les lois mémorielles ont mis en lumière la peur de l'historien d'être manipulé. Son idéal ne serait-il pas de s'enfermer dans une tour d'ivoire, à l'abri de toute intrusion, loin de toute influence, oubliant lui-même ses propres convictions, confrontant, critiquant, éliminant les documents qu'il a rassemblés pour leur arracher ce qu'il croit être la vérité, non pas sa vérité, mais la vérité. Le peut-il? En 2005, président de cette académie, j'avais posé la question « Peut-on faire confiance aux historiens ?» La réponse des communicants fut ambiguë, très ambiguë. L'historien ne se trompe jamais. Son récit des faits est rigoureux, vérifié, contrôlé, mais il n'échappe pas à son époque. Elle le conditionne, lui impose ses interdits et ses non-dits, ses jugements comme le choix de ses sujets. L'historien n'est qu'un homme. Il croit sincèrement être objectif, mais l'est-il vraiment? Mes chers confrères, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. Elle est dictée par eux. Je vous remercie.
Ce fut tout à fait flamboyant et nous avons écouté, vous l'avez vu, avec passion. Quelques collègues ont exprimé le souhait de vous interroger. Je prends encore quelques noms pour ne pas oublier.
Georges-Henri Souteau.
Monsieur pas d'autres, M. Trichet. Enfin, vous pouvez vous inscrire à tout instant. Je donne la parole à M. Dorcival.
Merci, M. le Président. Cher Jean Tullard, cher Jean Confrère, cher confrère, on ne peut que adhérer à l'exposé magnifique que vous venez de faire. Alors, je vais simplement aller sur un terrain et un seul, certes polémique, mais pour en montrer les limites aussi, celui des lois mémorielles. Bon, les lois mémorielles, vous avez montré tout ce qu'elles contenaient. Et en même temps, vous avez souligné combien l'histoire était un enseignement. Or, le plaisir que le lecteur peut avoir de relire les manuels d'histoire à différentes époques prouve que ces manuels, établis par des conseils d'historiens, obéissent eux aussi à des modes. C'est-à-dire que les lois mémorielles n'y sont pour rien, bien avant. Il n'empêche que les manuels en question se sont infiniment modifiés au cours des époques d'enseignement, tant pour l'école primaire que pour les établissements secondaires. Et donc, finalement, à côté de l'histoire contrainte par ces lois mémorielles, l'enseignement de l'histoire a beaucoup évolué. Je voudrais donc vous poser la question de votre jugement sur ce point. Et enfin, la contrainte des lois mémorielles. Là, je me fais volontiers, par pur plaisir, l'avocat du diable. Mais la contrainte de ces lois mémorielles n'incite-t-elle pas les historiens à être encore plus intelligents que ces lois stupides ? Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Saint-Cernin.
Merci, Monsieur le Président. Je m'associe bien entendu à l'éloge que François Dorcival vient de faire et je voudrais poser à Jean Tullard la question suivante. Quel est le statut de l'anabase où justement Xénophon raconte la retraite des 10 000 et il est au début un narrateur, un historien, un témoin et puis il devient finalement un chef politique et militaire. Et nous n'avons que son récit pour en témoigner. Alors, quel est le statut et quelle est la valeur de vérité de ce texte ?
Merci, Monsieur Ménard.
Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai beaucoup admiré, moi aussi, ce que nous venons d'entendre. Et je suis prêt à donner mon accord à tout ce qui a été dit. Mais j'ajouterai simplement un supplément. Un additif, mais qui change pas mal l'équilibre de l'ensemble. Je dirais que nous avons entendu parler politique et histoire, mais que ces deux notions sont elles-mêmes tributaires de normes, et que en fait, lorsque l'on parle politique ou lorsqu'on parle histoire, on travaille sur des normes. Et ces normes, elles appartiennent à deux domaines qui sont familiers à tous ceux qui pensent et réfléchissent, même quand ils font de l'histoire et de la politique. C'est d'une part la morale. Quand on parle de l'esclavage, on parle de morale. On ne parle pas d'histoire ni de politique. Et quand on parle de faire de l'histoire et de juger les événements, parce que l'histoire comporte toujours un jugement, et le jugement doit être bon. C'est-à-dire qu'il faut faire de la logique. L'autre norme, c'est la logique. Alors, est-ce que l'historien est toujours moral et logique ? Est-ce que le politique est toujours moral et logique ?
Merci, M. Ménard. M. Besançon ?
Merci, M. le Président. Jean Tullard a parfaitement raison. L'histoire est en général écrite par les vainqueurs. Mais je voudrais signaler une exception, c'est la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, l'histoire de la guerre d'Espagne, du moins telle qu'elle est racontée à toutes les générations depuis, et dans à peu près tous les peuples, est une histoire écrite par les vaincus. Et c'est la version des vaincus qui a triomphé. Et par exemple, les excellents historiens comme en France, Pérès ou Benassar, qui ont vraiment fait une bonne histoire digne de foi de la guerre d'Espagne, ne changent absolument pas la gloire, par exemple, des brigades internationales ou des tels actes héroïques ou la réputation de Picasso, qui a d'ailleurs, à partir d'une course de taureau, a fait le fameux tableau que l'on sait. Et parmi les écrivains, les espagnolades d'Hemingway ou de Malraux ont complètement recouvert les très émouvants récits d'Orwell qui donnent une impression de justesse extraordinaire. Homage to Catalunya, qui est un véritable chef-d'œuvre d'équité. Et Malraux continue d'avoir la gloire d'avoir commandé une escadrille dont le seul exploit est d'avoir descendu un avion postal républicain. Merci.
Merci. Monsieur Trichet.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rejoindre tous nos collègues qui ont admiré une nouvelle fois l'éloquence de Jean Tullard et aussi la pertinence de tout ce qu'il nous a dit. J'ai trois questions. La première, j'aimerais bien avoir son sentiment, c'est un peu dans la dimension qu'évoquait M. Saint-Cernin. Que pense-t-il de Thucydide lorsqu'il reproduit le discours présumé de Périclès dans lequel on cite pour la première fois, si j'ai bonne mémoire, le concept même de démocratie? Est-ce qu'il y a des éléments de vérité qu'il faut retenir dans ce texte? Deuxièmement, que pense-t-il des États-Unis? Les États-Unis, sauf erreur de ma part, ont un amendement à leur constitution qui fait que la liberté de parole est absolument totale. Donc on peut faire l'éloge du nazisme aux États-Unis, ce qui est extrêmement choquant. Et ce qui est d'autant plus choquant, à vrai dire, que par le biais de l'Internet, le monde entier est inondé de propagande extrémiste, mais qui sont garantis par la Constitution des États-Unis. Y a-t-il là ce qui serait l'optimum aux yeux de Jean Tullard, ou s'agit-il de nuancer peut-être cette liberté totale d'expression? Et enfin, que pense-t-il du général de Gaulle et de Churchill qui ont entrepris eux-mêmes d'écrire encore peut-être plus directement que Thiers leur histoire? Churchill, je crois, disait « L'histoire sera certainement bienveillante à mon égard, car c'est mon intention de l'écrire. »
C'est bien ça.
Oui.
Très joli ça.
Monsieur Gattaz.
Oui, moi, simplement une petite incidente après cette magnifique fresque. Et Jean Tullard a dit, et ça m'a fait beaucoup de peine, que Napoléon connaissait une réputation décroissante dans la civilisation française, et en particulier auprès de nos jeunes, auxquels je m'intéresse tant. Alors, je suis un petit peu surpris, cher Jean Tullard, parce que c'est vrai que nos jeunes ont hérité de leurs grands-parents le triptyque du mythe Jeanne d'Arc, Napoléon de Gaulle, et qu'ils l'ont remplacé peu à peu par un double mythe, Bill Gates et Steve Jobs, les créateurs respectifs, comme vous le savez, de Microsoft et de Apple, qui sont leurs mythes d'aujourd'hui. Mais, dans le même temps, ces mêmes jeunes sont très sensibles à la réussite de demain. Je suis surpris de voir que, alors qu'on avait dit que cette fameuse génération Y, qui n'est pas du tout différente de la X et de la Z, contrairement à ce qu'on a dit, que c'est une génération finalement très banale, eh bien, on a dit qu'elle était insensible à la réussite, mais c'est pas vrai du tout. Ces jeunes sont extrêmement ambitieux, comme nous l'étions nous-mêmes, très ambitieux. Ils ont envie de la réussite et d'une réussite éclatante, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils sont très sensibles à l'impression de leurs voisins de palier, contrairement à ce qu'on a dit. Alors, ma question est la suivante, cher Jean Tullard, est-ce que vous voyez que les jeunes aiment de moins en moins Napoléon ou vont l'aimer de plus en plus?
Merci. Monsieur Soutou.
Monsieur le Président, merci. Cher ami, cher confrère, vous avez montré admirablement le lien, je dirais, consubstantiel entre la politique au sens fort du terme politique, bien entendu au sens philosophique du terme politique, et l'histoire comme discipline intellectuelle, j'ai aussi comme pratique pour tous ceux que vous avez cités comme tiers. Alors, bien entendu, cette fusion, cette conjonction plus exactement, peut être rendue plus compliquée par les lois mémorielles qui nous sont imposées, nous autres historiens. En même temps, je me demande si, de façon plus subtile, une remise en cause peut-être plus radicale de ce lien que vous avez souligné ne provient pas de notre profession elle-même, de l'intérieur même de notre profession. Il y a, me semble-t-il, mais j'aimerais avoir votre sentiment, une méfiance croissante à l'égard de l'histoire politique ou de l'histoire du politique en dehors de considérations sur les résultats d'élections, les répartitions socio-électorales, etc., qui sont assez spécifiques. Mais il me semble qu'aujourd'hui, une œuvre comme celle de Thiers, que je trouve pour ma part toujours extrêmement riche et digne de réflexion, ne suscite pas une sorte de méfiance instinctive de la part de nos jeunes collègues. Je viens de nos jeunes collègues. Puis, deuxième façon de remettre en cause aussi ce lien, c'est peut-être de rabaisser le rabaisser, c'est pas le mot, mais de limiter l'objet même de l'histoire à ce qu'on appelait quand nous étions adolescents la petite histoire. Vous savez, vous vous souvenez, la vie quotidienne à Rome, la vie quotidienne à ceci ou cela, qui faisait d'ailleurs souvent d'admirables ouvrages, mais qui était considéré comme un genre historique un peu mineur. Mais si on regarde maintenant les projets de recherche, les projets de colloques, les colloques qui circulent, il n'y a plus que de la vie quotidienne. Vie quotidienne des femmes, misère sexuelle du soldat, c'est un thème très à la mode en ce moment pour illustrer la Première Guerre mondiale, et ainsi de suite. Et est-ce que nous ne devons pas également nous interroger sur les raisons que je m'explique pas très bien d'ailleurs, de cette dérive interne. Je vous remercie.
Merci. Monsieur Duhamel.
Merci, Monsieur le Président. Je ne veux pas ajouter des louanges aux louanges, parce que j'ai l'impression que tous les lauriers ont été coupés. Je voudrais simplement, puisque vous avez au fond très bien défini comment les politiques regardent les historiens, c'est-à-dire comme des savants gênants, j'aimerais, puisque vous avez cité nombre de politiques ayant écrit des livres d'histoire, comment vous les évaluez en tant qu'historien? Vous avez une liste, disons, d'une dizaine de noms que vous avez utilisés. J'aimerais bien que vous les notiez les uns après les autres. Merci beaucoup.
Merci. Monsieur Pébreau.
Merci. Je voulais remercier notre confrère de cet exposé exceptionnel, à la fois instructif et fascinant. Ma question était relative aux lois mémorielles. Est-ce que les lois mémorielles françaises ont envisagé de couvrir les problèmes posés par des génocides un peu plutôt asiatiques, comme celui du, non pas du Cambodge, je pense qu'il doit être concerné, mais de la Chine, ou bien celui de l'Union soviétique?
L'Ukraine, oui.
L'Ukraine, par exemple, oui.
Monsieur le secrétaire perpétuel.
Bon, je me joins évidemment au compliment. Jean Tuda, je voudrais faire une observation et poser une question. À propos des lois mémorielles, qui est une question qui s'est beaucoup posée à l'ancien responsable que je fus de l'éducation nationale, pour nous, les lois mémorielles étaient très utiles parce que sinon, c'était l'arbitraire dans les classes. Et il fallait bien que quelqu'un dise à un moment que tel événement, telle circonstance était à célébrer, à connaître, plutôt qu'une autre. Et donc, je serais peut-être moins sévère que plusieurs l'ont été ici. Et d'ailleurs, l'opinion ne s'y est pas toujours trompée. Souvenez-vous, lorsque, dans le début du septennat de Giscard d'Estaing, on avait envisagé de supprimer la célébration du 8 mai, l'opinion publique ne l'a pas accepté. Il y a donc une sorte de difficulté, de résistance quand même de l'opinion qui rend nécessaire des arbitrages pour ceux qui sont censés, qui sont chargés de transmettre. Enfin, c'est une parenthèse. Ma question est celle-ci. Il me semble aussi que ce qui fait que l'histoire et la politique se croisent beaucoup, c'est pas seulement le fait que des hommes politiques soient des historiens et que des historiens soient devenus hommes politiques, même si évidemment c'est extrêmement important, mais c'est que, surtout dans l'histoire ancienne, ce qui est l'objet, le moyen de la connaissance historique, c'est le discours. Et le discours est essentiellement un discours politique. Lorsqu'on regarde l'Abrobe Condita de Tite-Live, c'est une juxtaposition de discours qui sont d'ailleurs construits de la même façon, presque de manière systématique. Mais c'est avec ça quand même qu'on comprend les choses. Et cette façon de comprendre l'histoire a été d'ailleurs ressaisie aujourd'hui. Je pense particulièrement au livre de Nicole Leroux sur Athènes, qui s'appelle L'invention d'Athènes, qui se fonde précisément sur la guerre du Péloponnèse, sur la première intervention de Périclès, ou des textes de cet ordre. Et ce qui va d'ailleurs dans le sens de la question qui était tout à l'heure posée par l'Anabase. Et du coup, je me demande aussi s'il ne serait pas bien de poursuivre dans cette réflexion sur le rôle de la parole politique comme moyen de connaître l'histoire, par une herméneutique, évidemment, par une analyse qui soit reconstruite, qui ne soit pas simplement admirative, comme au fond il a été fait par les lieux de mémoire dans les travaux qu'avait fait Pierre Nora avec un certain nombre d'historiens, où à partir de lieux de célébration, le 14 juillet ou le Panthéon, on arrive à reconstituer une sorte d'histoire collective qui se fondait au fond sur ce que une nation s'était donnée à elle-même comme objet d'admiration ou de reconnaissance.
Merci. Monsieur Levillain.
Oui, cher Jean Tullard, pour vous féliciter, vous dire notre bonheur, j'utiliserai une réplique de Roxane, acte 3 de Cyrano de Bergerac, éloquent, vous le fûtes. J'ai deux questions périphériques à votre sujet qui m'a passionné, à savoir... Pourquoi est-ce qu'il y a tant de biographies qui s'accumulent comme des mille feuilles les unes sur les autres et quelquefois dans la même année? Il y a eu 5 Richelieu en 1968 ou 9. Et quelle évaluation peut-on faire de ce que sont les meilleurs ou pas? Je fais la marge de votre sujet sur le politique et l'histoire. Parce que c'est tout de même, je sais que c'est un problème éditorial, donc par conséquent de marché. Enfin, comment peut-on écrire 5 fois Richelieu dans la même année? Et donc ça pose le problème de la qualification de l'historien. Certains le sont, d'autres le sont pas. Et beaucoup des livres que vous avez cités sont, je dirais, des hobbies d'hommes politiques qui font l'histoire parce que ça correspond à une sorte de fascination. Je retiens le livre de Philippe Seguin, mais il y en a d'autres. Et d'autre part, je vous interroge un peu sur la construction de la vérité. Parce que l'historien, certes, dans la finalité, sait qu'Austerlitz a été gagné, mais c'est un long travail, et c'est un travail de recoupement. Et donc, Henri-René Marrou souligne dans la connaissance historique qu'une grande réserve à avoir sur la différence entre la véracité du document et la vérité historique. Est-ce que ce n'est pas cette multiplication des biographies, aussi des grandes études, bon, aussi bien sur Thucydide que sur Joinville, qui fait qu'en réalité, il y a toujours un vrai problème qui est la construction de la vérité historique?
Madame Bassi-Boguer.
Vous êtes un magnifique acteur. Je voudrais vous demander si les tendances que vous avez mises en évidence dans votre exposé, qui concernait essentiellement l'historiographie française et le rapport en France entre histoire et politique, est-ce que vous estimez que c'est la même chose dans les autres pays européens, et en particulier aux États-Unis qui ont été évoqués par ailleurs? Moi, ce qui me frappe, c'est que dans des pays où l'histoire est au cœur de la politique et qui ont toujours eu une attitude extraordinairement autoritaire sur ce que pouvait dire ou ne pouvait pas dire l'histoire, comme la Chine, depuis l'Antiquité la plus ancienne, il n'y a pas de loi mémorielle.
Merci. Ah, Monsieur Delvolvé.
Monsieur le Président, une question brève. L'histoire peut-elle être autre que politique?
de ce qui a été dit, ce qui vient d'être dit. Oui, si vous me permettez d'introduire Hegel dans ce débat,
je crois qu'il aurait été déçu. À ce
il s'y sentirait chez lui. Oui, à la question de M. Delvolvé, mais nous attendons surtout votre réponse, Hegel aurait répondu que oui, il n'y a d'histoire au fond que politique, même si les phénomènes économiques, les phénomènes financiers, les phénomènes culturels, etc., peuvent intervenir, toujours l'histoire est essentiellement politique. Et pour Hegel, les premiers historiens ont été des politiques. C'est ce qu'il appelle l'histoire immédiate, où ce sont ceux qui la font, qui la racontent. Et bien entendu, vous avez évoqué les grands exemples de l'Antiquité, César et compagnie. Je voudrais vous poser trois questions. L'historien ne se trompe jamais, parce qu'il est le prophète du passé. L'homme politique, lui, fait l'histoire. C'est-à-dire qu'il doit nécessairement essayer de prévoir le futur, tout au moins de peser la possibilité de tel ou tel objectif. Est-ce que le politique, lorsqu'il fait appel au service de l'historien, pour une autre raison que pour avoir en eux de futurs turiféraires possibles, est-ce que le politique, parfois, peut être aidé par les historiens dans son interrogation sur les possibilités qui lui sont offertes? Et vous-même, en tant qu'historien, avez-vous eu le sentiment que votre érudition historique vous permettait de faire une prévision de l'avenir? Vous auriez le sentiment que vous n'auriez pas pu la faire si vous n'aviez pas été historien. La deuxième question prolonge l'interrogation de M. Duhamel. Qu'en est-il des politiques qui se sont fait historiens? Ont-ils été de bons historiens? J'aimerais généraliser la chose et vous demander si les historiens qui sont devenus politiques ont mieux réussi dans leur nouveau métier que les politiques qui se sont fait historiens. La troisième question concerne la contradiction possible. Mais vous allez me dire que je fais erreur, probablement, entre votre leitmotiv « Les historiens ne se trompent jamais » et le thème par lequel vous avez conclu votre si brillante intervention en évoquant les affirmations en particulier que Raymond Aron a développées et popularisées en France, à savoir que même si l'historien veut être le plus objectif possible, il est de son temps et par conséquent est placé dans une situation qui lui interdit la neutralité et l'objectivité, puisqu'il projette sur le passé les types de pensée, de réflexion, etc., qui sont les siennes. Est-ce qu'alors vous êtes prêt à dire, en suivant, si vous voulez, ce thème de la subjectivité, l'enracinement dans son temps de l'historien, que l'historien peut parfois se tromper parce que, précisément, il n'est pas en posture d'absolue objectivité. Et au cas où vous dirigeriez vers cette nuance, une nuance apportée à votre leitmotiv, est-ce que, du fait de son insertion dans son temps, si l'historien se trompe, c'est par incomplétude, ce qui est quand même une erreur moins grave, ou au contraire, par une fausseté absolue? Parce que on peut quand même rétorquer à Raymond Aron que si l'historien est de son temps est quand même lié au temps dont il veut parler, les temps ne sont pas séparés les uns des autres et que même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas absolument faire erreur puisque le présent auquel il appartient est gros du passé sur lequel il fait son récit. Voilà les trois questions que je voulais poser. Pas d'autres interventions. Je me réjouis d'ailleurs, mes chers confrères, de l'abondance des questions et des interventions. Nous avons toujours près de 15 interventions et c'est pourquoi je me réjouis que un vaste public puisse profiter de nos débats puisqu'ils peuvent être mis à sa disposition. Avant de redonner la parole à notre confrère Jean Tullard, je vous rappelle donc que tout à l'heure, nous avons un comité secret et que, par conséquent, je souhaite que vous restiez nombreux à celui-ci. Vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Être couvert de lauriers est une chose redoutable car on étouffe sous les lauriers et donc sous les questions. L'avantage d'une communication ennuyeuse, difficile, incompréhensible, fait qu'il n'y a pas de questions et que je suis en train de me mordre les doigts précisément d'avoir été sans doute trop clair, trop simple, bref, de n'avoir pas été quelqu'un qui décourage l'interrogation. Mais c'était aussi le sujet qu'il imposait. Alors, je vais commencer par répondre au président en lui rappelant que le point de vue que j'ai donné ici, et je l'ai dit, c'est l'historien positiviste. Non pas, comme on l'a dit, l'héritier d'Auguste Comte, qui n'a rien à voir avec cela, mais de Lavisse, de Seignobos, de toutes ces vieilles barbes de la Sorbonne, qui ont voulu écrire une histoire qu'ils pensaient objective. Tout en laissant percer, ce que j'ai évité de faire, le bout de leur oreille politique, idéologique, Hollard, Seignobos, des tendances à Lavisse, avaient des tendances républicaines, d'ailleurs, qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Donc, c'est le point de vue d'un historien qui sort de sa tour d'ivoire pour venir devant vous, et un historien, d'autre part, qui s'est limité au champ de la France. Il est bien évident que l'historiographie chinoise, nous avons la meilleure spécialiste parmi nous, je ne suis pas capable, n'ayant jamais lu d'historien chinois et n'ayant jamais dépassé la lecture de Marco Polo. Mais c'est un point de vue, je l'ai bien précisé, limité. Alors, je réponds d'abord à vous, Monsieur le Président. Vous m'avez dit, au fond, vous avez répété sans cesse « un historien ne se trompe jamais ». Mais enfin, vous avez trouvé que j'exagérais. Monsieur le Président, je ne pouvais pas dire autre chose, puisque je suis historien élu dans votre académie. Si l'historien se trompait, vous ne m'auriez, et si je m'étais trompé, vous ne m'auriez jamais élu. Donc, il est bien évident que j'étais bien forcé de dire, en leitmotiv, l'historien ne se trompe jamais, même quand on l'accable de pression, de loi, il ne se trompe jamais. Vous m'avez dit aussi, une autre question, l'historien peut-il être un bon homme politique ou vice-versa. Des deux côtés, il faut l'avouer que c'est un peu la catastrophe. L'historien, homme politique, je n'en prendrai qu'un exemple. Il fut l'un de mes prédécesseurs au Cassica de l'agrégation d'histoire, Édouard Daladier. C'était donc un très bon historien, puisqu'il était premier. Mais sa carrière politique n'a pas été, semble-t-il, heureuse et il n'a pas profité de ce qu'il avait accumulé en préparant l'agrégation d'histoire pour devenir un grand homme politique. Et vice-versa, on pourrait revenir sur la notation qui m'a été demandée des hommes politiques qui écrivent des livres d'histoire. Il y a un problème, c'est qu'on ne sait jamais exactement ce qu'a écrit l'homme politique et ce qui a été écrit pour lui. Ce qui fait que ça revient à me demander quels sont les meilleurs nègres, Mais vous savez qu'au temps de Dumas, c'est Dumas qui a imposé le mot nègre. Avant, on disait des teinturiers. Les gens qui ont écrit les mémoires du Premier Empire étaient appelés des teinturiers, comme Beauchamp, comme Villemarais. Et donc, quel est le meilleur teinturier? Voilà le classement. Alors, le meilleur, bon, je ne voudrais pas briser des carrières de teinturiers. Enfin, vous m'avez posé l'autre question. Un historien peut-il être un très bon conseiller d'hommes politiques? Les hommes politiques font très peu appel aux historiens comme conseillers. Mais les historiens seraient pourtant très utiles. Je ne vous en prendrai qu'un exemple, ici même dans cette académie. Lorsque nous avons discuté d'histoire financière, où je vous ai exposé, à travers la crise financière de l'Ancien Régime, que toutes les solutions envisagées, la croissance, parce que nous avions une monarchie endettée de 2 milliards, ce qui aujourd'hui paraît une goutte d'eau, mais qui pour l'époque était grave, que la monarchie endettée avait fait appel à Turgot, qui avait trouvé comme solution pour éviter la catastrophe la croissance, c'est-à-dire la suppression des corporations, et la réduction des dépenses de l'État. Et je vous ai démontré que la réduction des dépenses de l'État, c'est pas possible, on ne réduit pas les dépenses de l'État, c'est pas possible, vous ne pouvez pas, et Turgot n'y est pas parvenu, et que la croissance, ça signifie des réformes de structure économique qui font que vous avez les gens dans la rue, ce qui fut le cas avec la guerre des farines et autres. Que la transparence avec Necker, le budget publié, ça s'est, or, soi-disant en équilibre, ça s'est retourné contre Necker. Et que lorsqu'on a un État endetté, à ce point, on ne fait pas d'intervention étrangère et que l'aide apportée à la par la France à l'indépendance des États-Unis avait abouti à la chute de la monarchie. L'indépendance des États-Unis nous a coûté 1 milliard et a provoqué la révolution. Je vous ai montré qu'avec Calonne, l'idée de Calonne d'une subvention territoriale d'un impôt nouveau, c'était l'idée de faire payer les riches. On ne peut pas faire payer les riches, ils échappent toujours. Et lorsque Calonne a voulu imposer la subvention territoriale, il n'a pas pu, parce que immédiatement, les privilégiés, car la subvention territoriale devait payer sur les riches, c'est-à-dire les privilégiés ont dit non, il y a une loi fondamentale du royaume qui interdit au roi de lever un impôt nouveau sans le consentement des États généraux, donc, et on savait très bien qu'aux États généraux, les deux ordres privilégiés avaient la majorité. Et donc, je vous ai dit, l'abbé Théré avait dit, il n'y a d'autre solution que la banqueroute. Et je vous ai dit, eh bien, nous avons fini sur la banqueroute des deux tiers. Donc, vous voyez que le ministre des Finances aurait bien raison de faire appel aux historiens pour découvrir que les solutions qui sont envisagées de la crise financière ne sont pas les bonnes. Alors, je vais reprendre tout ce qui a été dit par la suite, en suivant peut-être dans l'ordre normal, mais en me répétant. Monsieur Dorcival a rappelé que les lois mémorielles pouvaient être tournées. C'est extrêmement difficile. Lorsqu'une loi s'impose à vous, il faut effectivement... elle s'impose. La politique, si vous voulez, dans la loi mémorielle, la crise vient de ce que ces lois mémorielles ne sont pas assez précises, assez nettes pour que l'historien puisse savoir jusqu'où il peut aller. Et donc, effectivement, c'est l'appel de M. Dorcival à l'historien intelligent que je ne suis malheureusement pas. De toute façon, pour l'instant, Napoléon n'est pas trop concerné. Alors, M. de Saint-Sernin m'a posé une question que m'a posée aussi M. Trichet. C'est évidemment l'histoire ancienne. L'histoire ancienne, elle pose un très sérieux problème à l'historien positiviste. C'est pourquoi Seignobos et Lavisse ne se sont jamais aventurés dans l'histoire ancienne, parce que, effectivement, nous n'avons pour l'anabase que Xénophon. Xénophon, admirable écrivain, admirable conteur, mais Nous ne savons que ce qu'il nous en dit, et on ne peut confronter ce qu'il dit qu'avec des inscriptions que l'on trouve, mais on n'en trouve pas partout. C'est pourquoi Voltaire disait, attention, je voulais citer, j'avais prévu ce genre de choses, Voltaire disait, attention, l'histoire ancienne, c'est de la mythologie, ce sont des chimères. Et il est évident que le beau discours de Thucydide qui remplissait d'émotion Jacqueline d'Ormilly, en réalité, il a été écrit après coup, nous ne savons absolument pas. C'est comme les très beaux discours de certains, dans certaines histoires. Même, tenez, qu'a-t-il de plus beau? Plus beau que Thucydide et que Xénophon, que la proclamation de Bonaparte à l'armée d'Italie, « Soldats, vous êtes nus », etc. C'est admirable, c'est de l'oratoire. Eh bien, c'est totalement faux, ça a été écrit après coup. Jamais il n'a prononcé cette allocution qui a été forgée après la campagne d'Italie. Et il est bien évident qu'il n'y avait jamais ces grands discours oratoires, c'est de l'invention pure et simple, c'est du Plutarque, dans la mesure où, imaginez une armée de 10 000 hommes, et vous êtes là, vous imaginez l'orateur, Périclès, leur disant « ah 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 ah, comment, qu'est-ce qu'il dit ?» ça ne fonctionne que sur le papier. Donc, c'est ça, la faiblesse et la supériorité de l'historien positiviste. Il critique tout, et donc, les sources, il les passe au crible. Ah, monsieur Ménard, oui, la morale. J'ai prononcé le nom de morale, mais l'historien positiviste s'interdit de porter un jugement. Il ne va pas dire le fourbe Louis XVI, Louis XI, le faible Louis XVI. Dans la mesure où Louis XVI était un colosse et où le brave Louis XI s'est fait prendre à l'entrevue de Péronne en fait de fourberie, c'est lui qui est tombé dans le piège de Péronne. Bref, j'ai prononcé le nom de morale, mais l'historien ne fait pas de morale. Il ne juge pas, il y a le résultat. Henri III se débarrasse du duc de Guise, il le fait assassiner par les 45, ben voilà. Il le fait assassiner, c'était pas bien, je vous l'accorde. Le duc de Guise est tombé dans un piège. Bon, il tombe dans un piège, l'historien dit, il est tombé dans un piège, et puis c'est tout. La morale, c'est pour Pascal. C'est une pointe, évidemment, à l'égard de M. Ménard. La morale, l'historien, sinon, si il ne devait s'occuper que de choses morales et ne parler que de morale, eh bien, ce ne sont pas des thèses de 1000 pages, ce sont des thèses de 10 000 pages qu'il faudrait introduire. Monsieur Besançon m'a dit, effectivement, l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est faux pour la guerre d'Espagne. Mais, cher ami, qui sont les vainqueurs de la guerre d'Espagne? Nous sommes, en France, dans une sensibilité de gauche, toute la sympathie de l'intelligentsia va effectivement aux vaincus, parce que les vaincus, c'est Picasso, c'est Malraux. Bon, les vrais vainqueurs, ce sont les républicains pour nous. Ils ont gagné. Et aujourd'hui, regardez que reste-t-il de Franco. Donc, mais il y a quand même eu des historiens, enfin je n'ose nommer un certain Brasillac, etc., qui ont exalté les vainqueurs. Mais ceux-là ont été condamnés parce que les vainqueurs, en France, dans l'historiographie, ce sont les républicains. Et d'ailleurs, les historiens comme Benassar et autres qui s'occupent de la guerre d'Espagne, ce sont des enfants des vaincus de la guerre d'Espagne. Donc, qui vont se comporter en sympathisant des vainqueurs. L'histoire est encore écrite par les vainqueurs. Oui, je veux dire que les historiens que tu as cités, les historiens qui exaltent les républicains sont souvent des enfants de républicains, des réfugiés républicains en France ou des sympathisants de la République. Personne aujourd'hui ne va écrire un éloge de Franco.
Benassar a fait un livre très équitable sur Franco. Oui, mais enfin...
Dans l'ensemble, la guerre d'Espagne pose le problème, sauf peut-être en Espagne, en France, les admirateurs de Franco se comptent, enfin, j'entends comme historien, je ne parle pas autrement, se comptent sur les doigts d'une main. Alors, effectivement, la liberté, ça nous rejoint ce qu'a dit Monsieur le gouverneur, président Trichet, c'est... la liberté de parole aux États-Unis, oui. Vous m'avez demandé mon sentiment. Oui, je suis pour la liberté de parole. Mais vous avez employé un mot, éloge du nazisme. Non, je ne suis pas pour l'éloge du nazisme, c'est autre chose. Si je fais l'éloge du nazisme, je quitte ma position d'historien objectif. Je ne vais pas me mettre à exalter Hitler, dans la mesure où, j'adopte des... position subjective sur un personnage, je ne suis plus objectif. Le général de Gaulle a écrit des mémoires, c'est vrai, et Churchill aussi. Je dois dire que la grande force de Churchill, c'est qu'il a écrit non seulement des mémoires, mais une histoire de Marlborough, son ancêtre. Et que, effectivement, cette histoire est finalement objective. Et d'ailleurs, ne l'oublions pas, il faut le saluer, il n'y a que deux historiens pratiquement qui ont été couronnés du prix Nobel, c'est Mommsen et Churchill. Donc, je rends les armes là-dessus. Ah, Monsieur le Président Gattaz, oui, je vous ai dit, Napoléon, il est pour l'instant... Mais comme vous l'avez vu, les variations, c'est comme le cours du Napoléon. Monsieur le Président, ça monte, ça descend. Là, évidemment, nous sommes dans une période de baisse. Mais il est évident qu'un nouveau Barrès ramènera ces jeunes gens que vous encouragez tant dans votre organisme, qui aide tous ces jeunes entrepreneurs, les ramènera sur le tombeau de Napoléon. Et comme Barrès le faisait, enfin, dont les déracinés leur dira Napoléon, le professeur d'énergie, car il était, c'est ainsi que Barrès confie. Et donc, je vous rassure, Monsieur le Président, Napoléon, encore quelques beaux jours, y reviendront. De toute façon, il se vend toujours bien. Ça, c'est bien. En livre. Alors, effectivement, je me tourne vers mon collègue Soutou, Thiers est victime de précisément le fait qu'il s'agit de l'histoire politique et que l'on voit ressurgir effectivement la vie quotidienne. Mais il faut faire attention à quand même une chose. La vie quotidienne, c'était pas tout à fait de la petite histoire. Les vies quotidiennes ont été signées, notamment la vie quotidienne à Rome, par Carcopino, à Athènes par Flacelière, Napoléon par moi-même. Effet garanti, oui. Et donc, la vie quotidienne, la petite histoire, c'était de l'histoire anecdotique. On cousait quelques bons mots, quelques anecdotes piquées dans des mémoires apocryphes, mais précisément, c'est parce que c'était encore plus piquant. Bref, la petite histoire, elle se porte toujours bien, mais moins maintenant. Mais elle a connu son apogée avec des historiens, par ailleurs, très estimables, comme André Castelot, par exemple. Et j'ai eu des débats avec André Castelot, moi, le positiviste, face à lui, à propos de ce qu'il racontait, et qui étaient des anecdotes, je lui disais, mais elles sont apocryphes, voyez bien, tout ça a été inventé, mais il me disait, ça se vend mieux. Alors, j'ai répondu, je crois, à Duhamel, en disant comment les évaluer, je vous ai dit, c'est fonction des teinturiers. Alors, les lois, hein, mémoriel, M. Pébrot a posé la question, elles s'appliquent à l'heure actuelle en France, parce que c'est la France. Ailleurs, elle ne s'applique plus. C'est le Parlement français. Mais la tendance serait évidemment à leur donner une valeur universelle. Et vous avez parfaitement raison de souligner que dans la liste des génocides, il en manque. Il en manque, alors peut-être parce que nous n'avons pas les autres génocides, parce qu'il n'y a pas d'historien qui se beaucoup intéressé aux Khmers.
parce que, même si Staline est un peu dévalué, plus encore que Napoléon, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de problème qui soit posé, mais rassurez-vous, cela viendra peut-être. Oui, monsieur le perpétuel, le rôle de la parole politique dans les connaissances et l'histoire, effectivement, c'est fondamental, mais ça aide peut-être plus à pénétrer la mentalité, c'est plus dans l'histoire des mentalités politiques que dans l'exactitude des propos tenus. Les grands discours de Plutarque nous éclairent plus sur l'époque de Plutarque que sur les personnages que Plutarque évoque. Ah, monsieur le vilain m'a trouvé digne de Cyrano, j'en suis extrêmement flatté, c'est le plus beau laurier qui me soit décerné peut-être. Oui, beaucoup de biographies, mais pourquoi beaucoup de biographies? Parce que les biographies, ça se lit, parce que l'histoire, j'avais politique et histoire, mais j'avais fait, lorsque j'avais été président de l'Académie, demander à un éditeur de venir, car il y a aussi histoire et éditeur, car il y a aussi dans l'histoire non seulement le poids de la politique qui dit « Ah, faites attention, hein, là, vous touchez des sujets brûlants », il y a aussi l'éditeur qui vous dit oh, « Ça, c'est pas commercial, ça, alors j'en veux pas ». En revanche, il y a des auteurs qui se vendent parfaitement. Et ce sont les mêmes d'ailleurs qu'on retrouve au cinéma. Il y a effectivement d'abord Napoléon, valeur sûre, ensuite Jeanne d'Arc et ensuite Richelieu, que vous avez cité. Et pourquoi Richelieu? Mais parce que Richelieu, c'est les trois mousquetaires et que Richelieu bénéficie de l'effet Alexandre Dumas, probablement. Et donc, effectivement, les biographies se lisent alors qu'une étude sur la culture de la betterave sucrière sous le blocus continental dans le département du Pas-de-Calais a peu de chances de fasciner autant que Richelieu. Nous construisons, vous avez raison, cher confrère, nous construisons et donc en construisant, eh bien, effectivement, nous faussons aussi, c'est vrai, la véracité. Madame Bastide Brugger m'a posé la question, évidemment, de la Chine. Je crois lui avoir répondu à propos de l'Angleterre, des États-Unis, effectivement. Et la Chine n'a pas de loi culturelle, mais il y a eu pire, cher consoeur. Il y a eu la révolution culturelle qui, me semble-t-il, mais peut-être vous allez me contredire, a été encore plus terrible que les lois mémorielles.